Pour répondre aux questions et aussi pour avoir une meilleure discussion, on a invité tous les intervenants de ce matin de parler, aussi bien que Jean-Pierre Gattuso. Et en commençant sur la droite, nous avons Dr. Kerov Turley du laboratoire marin de Plymouth en Angleterre, qui a fait une première présentation ce matin, fait une synthèse sur les trois derniers jours de ce symposium, qui a réuni 250 chercheurs de 32 pays. C'est le plus grand symposium jamais fait jusqu'à maintenant sur le sujet de l'acidification des océans. Juste sur ce côté, plus près de moi, c'est notre deuxième intervenant, c'est le professeur Herman Held de l'Institut de climat, de recherche sur le climat à Potsdam en Allemagne. Et le professeur Held, il a parlé des économiques, des aspects économiques, parce que c'est vrai que les chercheurs, on étudie l'acidification, mais aussi les aspects économiques, combien ça va coûter si on ne fait rien, même si on fait quelque chose, quel est le prix au niveau global de l'acidification. On essaie de comprendre le prix pour le changement climatique, si on ne fait rien ou si on essaie de faire quelque chose. On a la même situation pour l'acidification des océans. Et notre troisième intervenant, c'est le deuxième de votre gauche, c'est Dr. John Baxter de l'Écosse, Scottish National Heritage, qui a parlé plutôt pour faire le lien entre les chercheurs et les communautés décideurs politiques, et surtout la communication qui est nécessaire pour faire ce lien, comment procéder et le besoin de faire ça. Donc maintenant, je voudrais passer la parole à Jean-Pierre Gattuso, qui est un des pionniers dans la recherche sur les effets de l'acidification des océans sur les organismes. Et c'est aussi Jean-Pierre Gattuso qui est le chef d'un nouveau projet européen qui s'appelle EPOCA. C'est en anglais, c'est le European Project on Ocean Acidification, donc c'est le projet européen sur l'acidification des océans. Pourquoi c'est un très grand projet avec des centaines de chercheurs impliqués de beaucoup de pays. C'est le premier projet international qui étudie le sujet, vraiment.
Depuis en fait les années 97-98 que quelques biologistes se sont intéressés à l'impact en fait que cette acidification pouvait avoir sur les organismes et les écosystèmes marins. Et les premiers travaux d'ailleurs ont été, parmi les premiers travaux, le laboratoire ici de Monaco, le Centre scientifique de Monaco, à l'époque, en 1998. Et les premières recherches qui ont été accomplies l'ont été sur des organismes calcaires, des organismes qui fabriquent soit un squelette calcaire, soit une coquille. Alors le squelette calcaire, ça peut être des coraux. On en a ici en Méditerranée, mais il y en a beaucoup dans les tropiques. Et les organismes également qui ont des coquilles, des mollusques comme les huîtres, les moules, des espèces donc, qui ont aussi quelquefois un intérêt commercial. Et pourquoi on s'est d'abord intéressé aux organismes calcaires? Eh bien parce que, comme l'a expliqué Jim, lorsque le CO2 pénètre dans l'océan, non seulement il acidifie l'eau de mer, mais il diminue la quantité d'un élément qu'on appelle le carbonate. Et or, le carbonate, c'est une des briques avec le calcium qui fabrique donc ce calcaire. Le calcaire, c'est du carbonate de calcium, et pour fabriquer du calcaire, il faut du carbonate et du calcium. Donc si la quantité de carbonate diminue, eh bien une des briques nécessaire à l'édification de ces squelettes et de ces coquilles devient plus difficile et donc le mur est plus difficile à monter ou il peut avoir des trous et être fragile. Donc les organismes calcaires ont été tout d'abord étudiés et l'inquiétude en fait vient du fait que il y a trois types d'éléments qui nous rendent assez inquiets. D'une part, lorsqu'on regarde au cours des derniers millions d'années, vous savez qu'il y a eu des extinctions biologiques qui étaient considérables dans le passé, et certaines de ces extinctions biologiques sont corrélées avec de très fortes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Donc les paléontologues, nos collègues qui étaient ici durant les trois jours précédents, ont mis en relief cette corrélation entre la quantité de CO2 dans l'air et l'extinction biologique. On est assez inquiet donc sur l'impact que pourrait avoir cette élévation du CO2 dans le futur. Donc ça c'est le premier élément d'inquiétude. Le second élément, c'est les expériences qui sont faites au laboratoire, ici à Monaco, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans beaucoup de pays, aux États-Unis. Les des expériences dans lesquelles les chercheurs mettent dans des conditions au laboratoire contrôlées des organismes, et dans ces conditions contrôlées, ils manipulent le CO2, et donc le pH de l'eau, et ils regardent quelle est la réponse des organismes. Eh bien, la plupart des organismes, pas tous, mais la plupart, certains sont tolérants, mais très peu, réagissent de façon négative à cette élévation du CO2, et donc ont une croissance qui est plus faible lorsque le pH est faible, ou quand la concentration en CO2 est élevée. C'est la même chose. Et troisième élément qui rend notre communauté assez inquiète, c'est en fait les observations qui sont faites dans le milieu naturel, plus en laboratoire, parce qu'on peut toujours se dire, bon, au laboratoire, on met des organismes dans des aquariums ou dans des petits récipients, est-ce que ça peut représenter ce qui se passe sur le terrain? Eh bien, précisément, les observations qui sont faites sur le terrain, et notamment à Ischia, une petite île qui est en face de Naples, cette île est à côté donc de Naples, et donc à proximité du Vésuve. Le Vésuve est un volcan actif, et donc dans la région d'Ischia, autour de cette île, il y a des émissions de CO2 gazeuses qui remontent de la surface, du fond des océans, de la mer en fait, et qui remontent vers la surface. Et donc c'est un laboratoire naturel où le CO2 est élevé, pas en raison des activités humaines, mais en raison de l'activité volcanique. Et les collègues britanniques de l'université de Plymouth, qui travaillent à Ischia, ont montré que au plus on s'approche de cette zone où il y a beaucoup de bulles de CO2 qui sont émises, eh bien le moins de diversité on a. Il y a plein d'organismes qui disparaissent et un très petit nombre d'organismes restent à proximité de ces émissions de CO2. Donc là, ça montre vraiment que dans des conditions de terrain, donc pas dans des conditions où on a manipulé le système, la réponse vraiment des organismes et l'impact sur la biodiversité est élevé. Et on a une chercheuse allemande qui a fait des observations un petit peu similaires, mais là dans l'océan profond, à proximité du Japon. Là aussi, il y a des émissions de CO2 gazeuses liées à une activité géologique. Et elle a également montré que la biodiversité diminue au fur et à mesure où on se rapproche de ces émissions de CO2. Donc l'impact sur la biodiversité peut être très important, ce qui nous rend donc inquiets. Peut-être ce qu'il faut mentionner aussi, on parle de la réponse des organismes, c'est qu'il n'y a aucun danger, c'est une question qu'on nous pose souvent, pour la baignade par exemple. On pourra se baigner en 2100 dans l'eau de mer, c'est pas l'acidification des océans qui va nous empêcher de nous baigner. C'est l'espèce humaine, en tout cas de notre peau, ne sera pas sensible à cette diminution du pH. Collègue de Montré, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'au fur et à mesure où on s'approche des zones où il y a beaucoup de CO2, il y a de moins en moins de diversité, et en fait il s'avère que ces zones-là sont aussi très sensibles aux espèces invasives. Les algues invasives notamment, qui ne font pas normalement partie des communautés qui vivent dans cet endroit-là. Donc le potentiel des espèces invasives est là, et on sait que dans le passé, il y a eu des conséquences économiques importantes sur l'impact des espèces invasives en Europe, notamment, on en a eu beaucoup, en Australie également. Donc ça, c'est les impacts qui sont les plus directs auxquels je peux penser. Les impacts sur la santé, les impacts directs sur la santé, j'en vois pas. Les impacts indirects qui pourraient agir sur la reproduction des microbes, etc. Tout ça, c'est de la spéculation, on n'a aucun élément qui nous permet de conclure sur cette